Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Massirica.
Au sommaire de cette édition, le secrétaire général de la CENCO dénonce la suppression de 600 écoles catholiques sur la liste de paye. L'abbé Donatien Chollet affirme que cette situation affecte plus de 6000 enseignants et assure qu'il n'existe pas d'école fictive chez les catholiques. La tension est montée d'un cran ce mercredi à Butembo pour la 10e journée consécutive sans activité dans cette ville du Nord Kivu. Tous les commerces sont restés fermés aujourd'hui, des précisions dans ce journal. Notre invité ce soir, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Kassim Diagne achève une mission à Butembo et à Lubero où il a échangé avec le représentant des associations locales. Au menu, comment dénouer la crise sécuritaire et rassurer la population qui réclame l'imposition de la paix dans la région. Madame, messieurs, bonsoir. Plus de 600 écoles conventionnées catholiques ont été élaguées de la liste de paye. C'est confiant à la presse mercredi au centre interdiocésain de Kinshasa. Le secrétaire général de la CENCO a dénoncé cette situation qui affecte plus de 6000 enseignants. L'abbé Donatien Chollet affirme qu'il n'existe pas d'école fictive chez les catholiques. Si elles existent, qui leur a donné des faux arrêtés, s'est-il interrogé. Il assure que l'Église catholique est bien disposée à collaborer avec l'État congolais pour les dénicher. Ses propos ont été recueillis par Jeff Ngoy.
Je crois qu'il y a des soupçons qu'il y ait des écoles fictives. Alors, chez nous, il y a plus de 600 écoles de réseau catholique. Et nous sommes en train de vérifier jusque-là, ce sont des écoles qui fonctionnent normalement. Mais s'il y a des faux arrêtés, c'est possible. Mais qui a donné ça? Il y a là même des écoles qui fonctionnent depuis l'époque coloniale, depuis avant l'indépendance. Ça signifie qu'il y a une vérification approfondie qui doit être faite. Ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles-là des listes d'appel parce que la conséquence immédiate, c'est que ce seraient des milliers d'enseignants qui seront pas dans leurs droits et des milliers d'élèves qui n'auront plus droit à l'éducation. Donc, autant travailler et nous sommes prêts d'offrir notre expertise pour aider l'État à voir clair dans ces dossiers. Nous encourageons ce travail pour mettre fin à la circulation de faux documents et à la création des écoles anarchiques. Jusque-là, nous n'avons aucun élément, même pas une interpellation des autorités là-dessus parce que je ne vois pas comment ça peut exister dans les réseaux catholiques.
Et puis, les prix des biens de première nécessité ont pris l'ascenseur ici à Kinshasa, du savon à l'huile, en passant par le riz et la farine de manioc. D'autres précisions dans ce reportage de Christelle Fritti de l'équipe de décrochage Kinshasa, rendu ici par Babel Pongomasimango.
Les vendeurs et les acheteurs témoignent eux-mêmes de cette hausse.
Dernièrement, j'ai acheté 20 litres d'huile à 63 000. Aujourd'hui, je l'ai eu à 75 000. Les cartons des cuisses des poulets qui coûtaient 32 000 reviennent maintenant à 39 000. Les cartons des chinchards coûtent 150 000. Je vendais les kilos à 5 000. Actuellement, c'est 6 500. Il y a vraiment hausse de prix. Un savon les coques qu'on achetait à 400 francs coûte 700 francs maintenant. Où allons-nous?
Même les vendeurs commencent à être gênés par cette augmentation de prix. Ils s'interrogent sur les causes alors que sur le marché, le taux de change n'a pratiquement pas bougé.
À propos de prix, ce qui est bizarre est que même l'index des biens fixés en dollars bouge aussi alors que les taux d'échange est fixe.
Dans son point de presse animé peu après la publication du gouvernement, le Premier ministre a placé l'amélioration du social parmi ses priorités. Jean-Michel Samaloukonde.
La priorité des priorités reste désormais d'être prêt avec le programme du gouvernement et qu'il pourra bien sûr contenir toutes les attentes du peuple congolais en ce qui concerne la transformation de sa condition sociale.
Les Congolais, en tout cas, attendent beaucoup de ce gouvernement, ne fût-ce qu'en ce qui concerne le social.
On enchaîne avec le Nord Kivu où les FARDC ont repoussé mardi après-midi dans le territoire de Nyiragongo des miliciens qui voulaient s'associer aux manifestants dans les quartiers Majengo et Bouéné pour s'attaquer à la ville de Goma. Selon son porte-parole, le trafic routier a repris. Selon ce porte-parole, le trafic routier interrompu pendant quelques heures entre Goma et Kibumba, en territoire de Nyiragongo, a repris après le déploiement des phares d'essai dans la zone de Kilimanyoka. À Goma, Gabriel Ouamenya.
Cette attaque serait menée par les assaillants non encore identifiés, a affirmé à Radio Okapi Major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire. Ces combattants supposés viendraient, a précisé Major Njike Kaiko, de la zone Kilimanyoka, près du volcan Nyiragongo, qui, selon lui, est considéré comme un oasis des groupes armés et d'autres bandes de criminels. Major Njike Kaiko précise que le trafic qui a été momentanément estompé pendant quelques heures a pu reprendre juste après le déploiement des forces de défense dans la zone. Des voyageurs ainsi que des longues files de véhicules et de motocyclistes bloqués de part et d'autre de la route allant de Goma vers Kibumba et Rutshuru ont dû reprendre les chemins. Pour l'instant, le porte-parole de l'armée n'a pas donné un quelconque bilan de cette opération. Il promet toutefois de se prononcer sur ces accrochages dans les heures qui suivent. Du côté des quartiers Majengo et Bouéné, le calme revient progressivement, mais les grands marchés de ces deux entités restent vides. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Et puis, il y a eu une vive tension ce mercredi sur le boulevard du président de la République à Butembo, au 10e jour des journées sans activité dans cette ville du Nord Kivu. Tous les commerces sont restés fermés. Pour en parler, retrouvons à Butembo Alicia Kapisa.
Deux différentes manifestations ont été organisées ce mercredi à Butembo. Il y a eu d'abord la marche organisée par la Lucha qui devrait avoir comme point de chute le quartier général de la MONUSCO. Des manifestants seront embarqués par la police, conduits à l'ANR selon le commandant intérimaire de la PNC Butembo, avant qu'ils ne soient relâchés quelques moments plus tard, nous a confirmé Kaliki Salama, un des manifestants. Par ailleurs, des centaines de jeunes, en majorité membres du groupe de pression par les mots de Butembo, de Fourou ont manifesté pacifiquement sur le boulevard. Ils ont d'abord organisé une messe avant de se diriger vers la morgue de l'hôpital de Matanda pour la levée du corps de Mumbere Faïda, un de leurs morts lors des manifestations du 8 avril dernier. Ces manifestants ont longé les boulevards, cercueils sur les épaules, jusqu'au siège du Parlement de Boudefourou dans la partie nord de la ville avant d'accompagner leur ami à sa dernière demeure. Signalons que le 14 avril est également la date commémorative des massacres des habitants de Kikyo dans la commune Bulengera. Butembo, Alicia Kapisa, Radio Okapi.
À Beni, pendant ce temps, 10e jour ce mercredi, des journées sans activité décidées par certains groupes de pression et mouvements citoyens locaux. Ils réclament le rétablissement de la paix et le départ des organisations internationales, dont la MONUSCO. En ville, les manifestants ont dressé des barricades sur certaines artères et le trafic a repris timidement sur les grands boulevards. À Beni, Guylaine Kassassia.
En cette 10e journée, si un calme apparent règne au centre-ville, dans les communes de Moulekera et Bungulu, notamment à Kalinda, Kanzulinzuli, Tamende, de barricades sont toujours visibles alors que les manifestants empêchent les populations d'évacuer normalement à leurs occupations. De manifestants qui, ce matin, ont tenté de se rendre à Boïkéné, où se trouve la base de la MONUSCO, avant d'être dispersés par la police non loin du rond-point Enera. Sur le boulevard Nyamwisi, le trafic a repris timidement avec quelques taxis, motos et véhicules qui circulent. Quelques vendeurs d'essence sont aussi visibles aux abords du boulevard. Par contre, dans les quartiers commerciaux de Matongé, boutiques et magasins restent toujours fermés. Les activités scolaires, elles aussi, sont toujours paralysées. Cela, malgré l'appel de certains syndicats, tels que les syndicats des enseignants, Confédération démocratique du travail, à laisser les enfants reprendre les chemins d'école pour que l'année ne soit pas perturbée. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la santé. Ainsi que vous le savez, le couvre-feu est repoussé de 22h à 4h du matin à Kinshasa et dans les provinces où la courbe de contamination au coronavirus est descendante. La mesure est levée dans les provinces de la RDC où la circulation du virus est faible. Cette décision a été annoncée mardi soir à la télévision nationale RTNC après une réunion de la task force présidentielle contre le coronavirus. Des précisions avec le ministre sortant de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, dans ses propos recueillis par Alain Rungmouchige.
Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin.
Et puis, la campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin AstraZeneca va débuter le 19 avril sur toute l'étendue de la RDC. Cette campagne sera volontaire, mais commencera avec le personnel soignant. Cette décision est la seconde mesure annoncée hier mardi à Kinshasa lors de la réunion de la task force présidentielle autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Santé sortant, Dr Eteni Longondo, précise que le vaccin AstraZeneca ne présente aucun danger. On écoute une fois encore le ministre sortant de l'Intérieur qui donne des précisions, Gilbert Kankondé, dans ce propos recueilli par Alain Rung.
Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaille par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, le personnel qui est au guichet par exemple. Eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19.
Santé encore. Trois nouveaux variants du coronavirus ont été détectés sur trois étrangers dont le bateau à destination de Matadi a été intercepté par le service de l'hygiène aux frontières depuis la haute mer. Et c'est ce qu'annonce à Radio Okapi le chargé des opérations à la coordination de la riposte contre le coronavirus au Congo central. Docteur Aimé Oumba s'alarme de la nuisance de ces trois variants qui risquent de circuler dans la ville. Il appelle par conséquent au respect des gestes barrières pour se mettre à l'abri du danger. Radio Okapi Matadi, Nana Plus Riche Mambou.
Ces trois nouveaux variants de virus de la COVID-19 détectés la semaine du 4 au 11 avril sont les variants anglais, sud-africains et belges. Ces marins ont été testés positifs depuis la haute mer par l'équipe du programme national de l'hygiène aux frontières qui, dans le cadre du renforcement de la surveillance épidémiologique, s'emploie ces derniers temps à intercepter les bateaux avant leur accostage. Ces trois malades ont été acheminés à l'hôpital provincial de Kinkanda où ces trois virus ont été neutralisés grâce à l'anti-COVID, un médicament anti-COVID du docteur Jérôme Mouniang en étude expérimentale au Congo central, indique notre source. Pour riposter à une éventuelle propagation de ces trois nouveaux variants des virus COVID-19, le gouvernement doit appuyer la production des anti-COVID. C'est ce que pense Dr Aimé Oumba, chargé des opérations et réponses au comité provincial de la riposte contre COVID.
Comme c'est un traitement qui est encore expérimental, si on peut commencer à penser à cette molécule locale.
Notons qu'il s'observe une tendance à la remontée des nouveaux cas COVID à Matadi, avec quelques cas sporadiques en Banzangungu et à Mwanda. La semaine du 4 et au 11 avril, la province a enregistré 7 nouveaux cas dans les 3 zones de santé précitées, ce qui ramène les cumuls à 1708 cas.
Actualité internationale.
En Somalie, 14 civils ont été tués et 4 grièvement blessés ce mercredi après-midi lorsque le minibus à bord duquel ils voyageaient a été détruit par l'explosion d'un engin dissimulé sur la route. L'administration locale affirme que le drame a eu lieu sur la route dans la périphérie nord de Mogadiscio, la capitale. Et au Mali, le président de la coordination des mouvements de la Zawad, une coalition d'anciens mouvements rebelles du nord du pays, a été assassiné mardi dans la matinée. Sidi Ibrahim a été tué par balle près de son domicile à Bamako par 2 hommes non encore identifiés. Enfin, sachez que le président haïtien Moïse Jovenel a annoncé aujourd'hui la démission du gouvernement et la nomination de Claude Joseph, l'actuel ministre des Affaires étrangères, au poste de Premier ministre. Il précise que ces changements au sommet de l'État visent notamment à s'attaquer aux problèmes d'insécurité qui minent le pays en crise multiforme.
L'invité.
Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Kassim Diagne a achevé mardi une mission qui l'a conduit successivement à Boutembo et à Lubero. Sur place, il a échangé avec le représentant des associations locales qui exigent le départ de la MONUSCO. L'objectif est de voir comment dénouer la crise en rassurant la population locale de l'engagement de la mission onusienne à répondre aux préoccupations de la population d'imposer la paix dans la région. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur le représentant spécial adjoint, vous venez de clôturer une mission de 2 jours à Boutembo et Lubero. Vous avez rencontré au cours de cette mission la société civile et ses différentes composantes, la FEC et autres. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette mission?
Ce que nous pouvons retenir de cette mission, c'est d'abord un constat d'un contact franc, fraternel et que nous souhaiterions renouveler dans les semaines qui viennent. Je ne voudrais pas tirer déjà un bilan parce que j'ai promis à tous les partenaires, que ça soit le maire, le chef de secteur, que ça soit nos frères et amis de la société civile, que nous sommes dans un début de discussion et de dialogue. Et je ne voudrais pas fermer la porte ici. Je voudrais la laisser entrouverte parce qu'il y a déjà des propositions qui m'ont été faites et je dois en tout cas retourner, en discuter avec mes collègues, en faire part à la représentante spéciale qui est donc le chef de cette mission et regarder dans quelle mesure on peut assez rapidement, tout en gardant une sérénité, tout en gardant le calme, voir si ces solutions peuvent être rapidement mises en œuvre. Pour dire que nous avons une actualité que vous connaissez qui est assez tendue, qui est assez difficile, assez complexe parce que beaucoup de ses collègues, amis de la société civile, réclament à tort ou à raison que la MONUSCO puisse partir parce que tout simplement, selon leur perception et selon leur point de vue, nous avons échoué dans la mission de protection des civils. C'est un cri de désespoir et c'est un cri très important, très significatif que nous prenons très au sérieux.
Par rapport à ça, quelle est la réaction de la MONUSCO? Qu'est-ce que vous avez dit à la société civile et ces différents mouvements citoyens qui jurent au départ de la MONUSCO?
D'abord que je les comprends, pas seulement de ma personne, mais en tout cas de toute la mission, que nous prenons très au sérieux, encore une fois, cette réclamation légitime et sur laquelle nous allons travailler pour voir où est-ce que le bas blesse. Et là où le bas blesse, là où il y a des failles, et ça, nous sommes tous des humains, suivons l'actualité tous les jours, évidemment, face à ces massacres, ces violences faites aux femmes, aux enfants, ces kidnappings. J'ai entendu un cri de désespoir, même de la communauté économique, des transporteurs qui m'ont dit, écoutez, nous craignons pour notre vie, nous ne pouvons plus nous déplacer dans nos camions parce que craignons d'être pris dans la forêt et d'être massacrés ou tués. Donc ça, c'est pour dire que nous comprenons cela. Tout ce que nous demandons, c'est que l'on puisse raison garder et discuter dans la sérénité et éviter la violence. Et
vous avez également échangé avec Monseigneur l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni sur le même sujet. Et comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a des réformes qui sont envisagées dans le cadre de l'exécution du mandat de la mission par les casques bleus, bien sûr la protection de la population dans la zone de Béni?
Je voudrais vraiment saisir l'opportunité pour remercier Monseigneur l'évêque parce que il a été extrêmement généreux dans ses conseils. Je voudrais pas révéler ici la teneur de nos discussions, mais il y a un conseil qui a beaucoup retenu mon attention. Il m'a dit, Monsieur Diagne, essayez de faire la différence. Faites en sorte que la MONUSCO fasse la différence dans son soutien en appui aux forces de sécurité pour protéger les civils. Faites la différence. Ça veut dire trouver des voies et moyens autres pour pouvoir solutionner cette crise. Parce que ça fait longtemps que ça dure. Et lui, en tant que vraiment homme religieux, autorité morale, il est en contact tous les jours avec ses paroissiens, lors des messes, lors des confessions et autres. Donc, je comprends. Et quand il me le dit, je
le crois très sincèrement. Mais tout ceci pour dire que, en tout cas, je repars avec beaucoup de recommandations, avec beaucoup de conseils. Mais s'il y en a un qui sort du lot, c'est il nous faut faire quelque chose. Il nous faut, comme disait l'évêque, faire la différence.
Oui, pour finir, qu'est-ce que vous avez comme message adressé à présent à toute la population du Grand Nord Kivu, de l'Ituri, où du jour au lendemain, il y a des persécutions, des massacres, bien sûr, partant aussi des différentes accusations portées contre la MONUSCO à travers vos différents échanges à Butembo avec différentes couches.
Nous souffrons avec cette population-là. Nous avons très bien compris et nous avons très bien entendu ce cri de désespoir et ensemble avec les autorités congolaises que nous sommes venus appuyer, nous prenons la menace des groupes armés très au sérieux. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour solutionner assez rapidement cette situation, nous la ferons. Je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge des opérations de maintien de la paix. Kassim Diagne était interviewé par Sadiki Aboubakar. Il est 18h20 à Kinshasa et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Alouzitou et Pelé Kipelamondo qui m'ont accompagné.